et ses magazines.
Pour un son.
Pour un son. Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre.
Quand on pense à cet homme, à son engagement, revient en mémoire des histoires. D'abord ce proverbe chinois. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Et puis aussi cette citation amérindienne apache que l'on attribue à Geronimo. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Il faut dire que sa vie est constituée d'histoires. C'est un enfant de l'oralité, baigné dans la transmission des paroles. Pourtant, il n'en est pas resté aux mots, au discours, à la théorie. Il est passé à l'acte activement, sans concession face au concret, devenant un expert de sa propre expérience, ne se laissant pas polluer par la tribu des Yakafaucons, l'une des rares, et ça tombe mal, toujours en voie d'extension. Lui privilégie l'empirisme, marchant sur les traces, tiens, encore une histoire de Bouvard et Pécuchet. Quittant un jour la ville pour rejoindre la terre, quittant son travail pour la travailler, la terre. Mais différemment, à sa manière à lui, en la prenant en compte, elle, pour ce qu'elle est, ce qu'elle fait, dans le respect de ses besoins, de sa force et de sa fragilité, de son pouvoir, de son rôle. Redonner vie sans délai à la terre pour ne pas la rendre davantage délétère. Une aventure humaine et terrienne qui s'est terminée plus positivement que chez Flaubert. Malgré certains échecs, les difficultés rencontrées, il n'a jamais retourné sa veste en retournant en ville, se contentant de retourner sa terre. Il continue ainsi à cultiver au fin fond de l'Ardèche, tout autant son jardin intérieur, publiant ses livres poétiques ou politiques, que son champ donnant naissance à des légumes, des fruits, un champ des possibles ouvrant tant d'espoir dans un monde aveuglé par le principe de la chimie industrialisée élevé au rang de magicien, en réalité juste terrible et mortifère apprenti sorcier dont les répercussions vont bien au-delà de ce qu'elle laisse aujourd'hui présager. C'est un petit homme, mais un grand personnage qui égrène ses convictions humanistes depuis plus de 40 ans, philosophe, pionnier de l'agriculture biologique, poète, agriculteur, conférencier, écrivain et fan de Bibi Fricotin, autant dire qu'il ne nous en fallait pas plus pour avoir envie de le rencontrer.
D'un point de vue personnel, c'est une de mes plus belles rencontres. Fait partie des gens qui m'aident à me structurer et à être un petit peu plus cohérent.
Pour un son.
Bonjour à tous, bienvenue. Vous écoutez Pour un oui, pour un son avec aujourd'hui Pierre Rabhi.
Je me souviens, la première rencontre, j'étais très émue puisque pour moi, c'était vraiment rencontrer une de mes idoles.
Pour un son.
Bonjour Pierre Rabhi.
Bonjour monsieur. Merci de la présentation, elle est parfaite.
Merci à vous. Comment allez-vous?
Bah écoutez, bien, j'ai quand même 77 ans bientôt et évidemment je regrette un peu ma jeunesse, mais bon, c'est comme ça, c'est le sort, c'est le sort de tout le monde.
Ça apporte des choses en même temps l'âge.
Oui, on a quand même des difficultés dans les transitions, c'est-à-dire qu'on je me dis, tiens, ça je peux plus le faire. Alors après, évidemment, ça peut être soit vécu comme une érosion des choses perdues, soit un transfert vers autre chose. Et je vis ce transfert vers autre chose, avec l'énergie que je n'ai pas dans des domaines qui étaient les miens jusqu'à maintenant, et probablement transposée dans quelque chose de nouveau, qui correspond à là où j'en suis aujourd'hui.
Est-ce que les envies sont encore là? Est-ce que ce n'est pas là le principal? Quelles que soient après ses capacités physiques, sa force?
Ben, les envies sont là, ils changent évidemment, ces envies, ils sont pas forcément les envies qu'on a pu avoir auparavant. Mais les envies se clarifient, s'affirment au fur et à mesure qu'on avance dans son itinéraire d'existence. L'envie est toujours là, c'est-à-dire que le désir de faire, le désir de continuer, le désir... Voilà, on arrive même à une situation quand on est dans un engagement tel que le mien, on a envie parfois de donner sa démission, mais on ne sait pas à qui.
À vous-même?
À moi-même.
Peut-être
il faudrait que
vous
je me réunisse avec moi pour se traiter de mon dossier.
Fan de Bibi Fricotin, est-ce que c'est encore le cas? C'est amusant cette petite
partie. Ah oui, j'ai une
partie.
Pile de Bibi Fricotin.
Et puis
à la télévision, j'aime bien regarder les choses légères, juste pour me... Voilà, je n'ai pas envie de perdre non plus cette dimension. J'espère qu'elle est enfantine et pas infantile. Et que voilà, c'est ma façon, moi, d'exprimer que tout est relatif. Et que, Il ne faut pas que les choses nous montent à la tête. Et je suis vraiment, vraiment, j'apprécie Bibi Fréquetin. Peut-être que c'est les réminiscences de mon adolescence.
Petite probablement. Oui. Je vous propose tout de suite un retour sur un courant de pensée englobant tout autant le respect, le bien-être de la Terre que de l'humain, Pierre Rabhi.
Pour un son.
J'ai montré que la probabilité que l'humanité se suicide est devenue énorme. Et par conséquent, il faut absolument lutter pour empêcher cet événement collectif.
D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient.
En deçà d'un certain seuil, effectivement, il faut un peu plus de vitesse pour gagner du temps. Au-delà d'une limite supérieure, la vitesse tue le temps.
Nous sommes dans une mutation culturelle fondamentale.
Il faut que tu respires. Et ça, c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire.
Les calculs, les derniers calculs faits sur Paris, la région parisienne, ramènent la vitesse de chacun en voiture à quelque chose comme 6 km à l'heure. La voiture est faite pour que l'on se déplace plus rapidement. La réalité, c'est que plus on augmente le nombre de voitures, plus les voitures sont puissantes, plus on a de bonnes chances de faire du surplace.
La complainte du progrès.
Il va écologiste prouver que l'univers fait partie d'une liste comprise de travers. Et quand un jour sur Terre il arrive descendu du haut de sa montgolfière, il n'est pas très dodu.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux.
La notion de contre-productivité.
Dans toutes les enquêtes que l'on a faites, il en ressort toujours que les gens, particulièrement ceux qui ont moins de 40 ans, ne veulent plus s'identifier à leur travail. Nous, on n'est pas prêts de sacrifier notre vie pour le boulot et pour la profession.
La probabilité que l'humanité se suicide est devenue énorme. Et par conséquent, il faut absolument lutter pour empêcher événement collectif.
Alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Je vous ai vu sourire à un moment, sur Boris Vian, la complainte du progrès.
Oui.
Le reste n'est pas très drôle. Vous avez reconnu les voix?
Oui.
Albert
oui.
Jacquard, entre
oui,
autres.
Oui, c'est ça.
Étienne Verne qui parlait de la vitesse selon Yvan Illich, André Gorce,
oui.
Et puis pour la musique Mickey 3D, Charles Trenet l'écologiste, et puis Damien Saïs aussi avec J'accuse. Ça vous évoque quoi d'écouter comme ça ces idées qui sont proches des vôtres?
Ben, c'est-à-dire que ces idées évidemment je m'y retrouve. Mais il faut dire, non pas pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est que j'ai été très très précoce dans la remise en question de nos modèles de société. Non pas la remise en question, évidemment, de ce que la modernité a pu apporter de positif pour que l'humanité puisse évoluer correctement, mais le modèle de société, c'est la raison pour laquelle nous avons en 1961 avec ma compagne Michel quitté Paris pour retourner à la Terre. Et c'était à l'époque déjà une remise en question de notre modèle de société dans une critique pratiquement radicale qui aboutissait à dire nous sommes fourvoyés, c'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai senti que ce qui m'était demandé, c'était de troquer toute mon existence contre un salaire.
Et que... Vous l'avez fait à un moment.
Oui.
C'est devenu insupportable, vous êtes parti, donc soit en 61, 10 ans avant les, ce qu'on appelle les 68 arts.
Oui, absolument.
Après, il y a eu un déferlement de...
Et un moment qui paraissait un peu bizarre, parce que c'était les 30 glorieuses, c'est-à-dire que la machine économique fonctionnait à plein rendement, et on était dans une espèce de triomphe de la modernité. Simplement, on occultait le fait que le triomphe de la modernité était basé quand même sur énormément de prédation. Et que concentration, c'est le pétrole, les matières premières, tout ça, l'Europe allait puiser partout pour doper son propre modèle de société. Et donc, à partir de là, on s'est bien rendu compte que cette logique-là n'aura pas d'avenir.
Et là, vous avez passé, je le raconte pour l'anecdote, mais c'est quand même intéressant d'un point de vue symbolique, 13 ans sans électricité à la campagne.
C'est-à-dire, quand nous avons voulu retourner à la Terre, c'était un peu aussi dans une idée, non pas se rapprocher de la nature, et il se trouve que l'activité la plus favorable au rapprochement de la nature, c'est l'agriculture. Bon. Donc à partir de ce moment-là, on a quitté donc Paris, on est allé en Ardèche, accueillis par des amis, et puis nous nous sommes résolument mis à la recherche d'un lieu, une fois que j'ai appris l'agriculture, parce que je n'y connaissais strictement rien.
Vous avez pris des cours?
J'ai pris des cours et j'ai été ouvrier agricole pendant 3 ans, et c'est en étant ouvrier agricole que j'ai été un peu dépité, dans le sens où dans les exploitations agricoles, on utilisait énormément de chimie. C'est-à-dire qu'on était quelque part dans la mort, quoi. On tuait avec des engrais dans le sol, avec des pesticides partout.
Ça faisait combien de temps dans les années 60
Comment 61.
Oui, mais ça faisait combien de temps qu'il y avait tant de produits chimiques
pour les
engrais?
Ah bah ça faisait déjà pas mal d'années. D'ailleurs, ça s'est amorcé et ça s'est amplifié sitôt après la guerre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu la pétrochimie internationale a en quelque sorte amené un prescripteur, un agronome prescripteur d'engrais, et a formé la formation agricole était destinée à justement mettre en conformité, disons, l'apprentissage de l'ingénieur agronome par rapport aux logiques qui ont été choisies de l'usage massif de substances toxiques.
Donc en ville, la vie ne vous plaisait pas, vous avez été à la campagne, et finalement la vie telle qu'on vous la proposait à la campagne, ça ne vous convenait pas non plus, donc vous l'avez adaptée.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, grande illusion de la part des gens, parce que en fait, ce que nous recherchions, quand nous avons trouvé notre ferme, vous venez de l'évoquer, il y avait des fermes libres partout parce qu'il y avait un exode rural énorme, des gens partaient en ville et l'avenir était en ville, etc. Donc on avait le choix, hein, en termes de propriété. Sauf que la propriété que nous avons choisie, elle ne comporte pas d'électricité, puisqu'on a vécu 13 ans sans électricité, évidemment pas de téléphone, le sol rocailleux, les chemins à peine praticables, l'eau relativement rare. Et quand je me suis présenté au Crédit Agricole pour dire prêtez-moi pour acheter ce lieu, ils m'ont dit on peut pas vous prêter parce qu'on peut pas vous aider à vous suicider. Que c'était pas vivable. Seulement, c'était très difficile de dire que la démarche n'était pas simplement agronomique, mais la démarche était aussi la recherche de la beauté, la recherche de
du bien-être.
Quand nous avons trouvé ce lieu magnifique, on était privilégié de pouvoir vivre dans ce lieu. Alors du coup, on a quand même obtenu notre prêt, et puis effectivement, envers et contre tout, nous avons réussi à nous établir et à avoir une famille avec 5 enfants.
Vous venez d'une famille de musiciens, je sais que votre famille aussi aime beaucoup la musique. Je vous propose d'écouter Freda, c'est une passionnée du blues, elle a étudié la guitare jazz, le chant indien, elle est chanteuse, auteure, compositrice. Elle a été formée à la musicothérapie, la voici avec son album Le Chant des Murmures et la chanson Le Murmure des Chants.
Commun. Non, ce n'est pas demain. La fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain. La fin du murmure du vent. Rose
à partager. Mon sourire pas demain, la fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain, la fin du murmure divin. Humides, rien que des champs, et nous voyons ce que nous offre l'horizon. Non, ce n'est pas demain, la fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain, la fin du murmure divin. Surface qui refleurit chaque matin. Non, ce n'est pas demain, la fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain, la fin du murmure divin.
Pierre Rabhi est l'invité aujourd'hui de Pour un oui, pour un son. Pierre Rabhi, vous êtes né en Algérie, vous avez perdu votre maman très jeune et votre père vous a confié une famille quand vous aviez 5 ans. Vous avez été élevé par une institutrice et un ingénieur.
Oui. Au-delà de 5 ans, c'est-à-dire que j'ai eu le temps quand même de vivre dans mon milieu naturel, enfin jusqu'à une dizaine d'années. Et donc j'ai vécu dans ma propre culture avant d'aller vers la culture, disons, appelons ça occidentale.
Et d'ailleurs, vous dites à l'époque, je devenais un petit occidental à l'apparence indigène, puisque vos parents adoptifs vous ont fait découvrir après l'opéra, le théâtre, et puis une conversion religieuse. Vous êtes né musulman, vous êtes devenu catholique.
Oui.
Ça devait être à la fois très perturbant et parallèlement très enrichissant, cette double culture ou remplacement de culture, plutôt double culture.
Ben, la double culture, si vous voulez, quand on est, on passe de l'islam au christianisme, on est évidemment dans des contradictions. Parce que d'un côté, l'islam vous dit surtout ne pas boire de vin, ne pas manger de porc. Et de l'autre côté, bah, la famille qui se régale avec du vin. En plus, ma mère était bourguignonne, donc ça lui faisait pas peur de siffler sa bouteille de vin tout seul. Et puis évidemment, le saucisson, le jambon, le machin. J'étais dans cette situation où...
De se renier presque,
en tout cas,
renier ce que vous pensiez, ce que vous avez appris.
Mais c'est-à-dire que j'étais entre le marteau et l'enclume, en quelque sorte, dans... Et quand on aime dans les deux mondes, on se dit, mais, et puis finalement, la grande question, peut-être qui a été peut-être la question fondamentale, mais qui a raison? Qui a raison? Les uns disent une chose, les autres disent une autre, le contraire.
Et si la vérité était ailleurs, aussi?
Bah, de toute façon, après, par la suite, compte tenu de mes interrogations impossibles, je me suis beaucoup intéressé aux philosophes. J'ai lu beaucoup de philosophes. Et là aussi, j'ai pas trouvé que les philosophes s'entendaient non plus. Alors, par contre, quand je suis allé vers le grand Socrate, avec la formule « tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas », et ben voilà, moi je me suis installé là-dedans, il y a des choses que je sais, mais que savons-nous finalement? Chacun de nous peut se poser la question « qu'est-ce que je sais ?» Voilà. Je suis sur cette planète, qu'est-ce que je fais sur cette planète? Alors évidemment, les hypothèses se multiplient, je vais mourir, je vais me réincarner, je vais ressusciter, etc. Moi, je n'en sais strictement rien. Alors là, je peux dire que je n'en sais strictement rien.
Mais pas de foi, parce que la religion, c'est ça aussi, c'est une sorte de conviction qu'on appelle la foi.
Oui, je suis passé par les phases, disons, d'adhésion inconditionnelle à des préceptes, des principes, à des dogmes, etc. Mais petit à petit, on se rend compte que finalement, dans cette cacophonie, regardez ce que ça produit, les guerres de religion, les gens qui s'entretuent, s'entregorgent pour une virgule sur la Bible, sur etc. C'est absurde, totalement absurde. Par contre, je suis resté extrêmement, disons, touché par le message de ce monsieur qu'on appelait Jésus-Christ et qui en fait n'a cessé d'insister sur le fait de la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Aimez même vos ennemis. Et je pense que cette puissance de l'amour nous manque terriblement aujourd'hui. Nous sommes vraiment... Alors ça, c'est le message pour moi fondamental.
Donc vous avez pris ce qui vous plaisait. Finalement, vous pourriez prendre aussi peut-être dans le bouddhisme aussi, enfin ce qui avait une résonance en vous, ce qui vous parlait.
Disons, moi je reste quand même très très centré sur ce message qui prône l'amour que la puissance absolue. Et malheureusement, ce message, on en a fait des théologies, des trucs compliqués. On a compliqué les choses de façon à justifier finalement les défaillances. Ce qui a donné il y a une contradiction énorme entre le message du Christ et les guerres de religion. Et pourtant, les protestants, les catholiques, tout le monde s'est égorgé joyeusement. Et c'est complètement en contradiction avec ce message simple qui est aimé, c'est tout. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque terriblement, c'est qu'en fait, nous sommes dans des tas de considérations, alors qu'en fait, c'est vraiment la bienveillance. Même si on n'ose pas, par pudeur, parler d'amour, alors que pour moi, l'amour, il a une signification extrêmement forte. Il ne s'agit pas, évidemment, de l'amour que l'on bricole, que l'on trafique en fonction de nos convenances, où on commence à... sans vraiment... C'est simplement le réalisme. Des gens se marient, bravo, l'amour, etc. Puis ça finit au tribunal qui garde les enfants. Je veux dire, je fais pas de l'humour avec ça, je fais du réalisme, c'est tout. Et donc voilà, c'est cet amour inconditionnel et fort qui pour moi me paraît être la grande carence du monde d'aujourd'hui.
Vous avez vécu le déracinement familial et géographique. Est-ce que votre prise de conscience du fait que nous ne faisons que passer sur cette terre qui ne nous appartient pas vient peut-être un peu de là aussi?
Alors la notion de prise de conscience me rappelle l'électricité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait une prise de conscience, il n'y a qu'à se brancher dessus et ça y est. Non, c'est une élévation de la conscience. C'est-à-dire qu'à travers notre itinéraire, moi, je décrirais ça comme quand on gravit une montagne, vous voyez. On gravit une montagne, il y a l'effort qu'il faut faire, on souffle, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le paysage s'élargit. Et si vous voulez, les choses deviennent intelligibles, parce que plus on monte, plus on voit le plan général des choses, et il y a une intelligibilité de la réalité. C'est pour ça que je dis élévation, élévation, élévation. Et cette élévation, c'est un travail que chacun de nous doit mener tous les jours pour essayer d'obtenir cette clarification des choses. Parce que effectivement, on est bien obligé de constater que l'humanité n'est pas intelligente. Si des extraterrestres nous observaient, je pense pas qu'ils puissent conclure qu'on est intelligent.
C'est pour ça qu'ils sont pas venus. Ils nous regardent quand on vient se marrer.
Peut-être. On a une planète absolument splendide. On en fait une poubelle, on la ruine, etc. On donne beaucoup plus d'importance aux armements, à la tuerie et aux missiles et à toutes ces balivernes qui culminent avec la bombe atomique. Quel triomphe, la bombe atomique. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique pour une humanité intelligente. Donc tout ça, il y a une dérision, mais cette dérision ne m'empêche pas d'être dans la compassion. Mais je réprouve totalement le fait que l'humanité puisse donner autant d'importance à la destruction, au meurtre, et qu'à l'amour et qu'à la vie.
Parallèlement à l'écologie politique, il y a la politique écologique qui, malgré la similitude des mots, en est parfois bien éloignée.
Nous n'avons pas actuellement dans notre urbanisme, nous ne donnons pas une place suffisante à l'arbre. Et je souhaite que nous instituions à partir de cette année une journée nationale de l'arbre.
D'ici 10 ans, les neiges du Kilimandjaro auront disparu.
Je veux réaffirmer clairement devant vous mon attachement à une agriculture durable, respectueuse de son environnement, et qui ne met pas en danger la santé des paysans. N'opposons pas en France l'écologie et l'agriculture. N'opposons pas l'écologie et le transport routier. Les agriculteurs vivent de la nature et au milieu d'elle. Les présenter comme des ennemis de leur propre milieu de vie est inepte.
Tous les experts sont d'accord pour dire que nous sommes responsables du réchauffement.
Il y a des conflits dans le monde, sur la planète, il y a l'enjeu de l'environnement, du réchauffement climatique. Bien sûr que le président doit être à la hauteur de ces sujets-là.
En fait, ce n'est pas tant une question politique qu'une question morale.
Moi, président de la République,
je m'appelle Al Gore, je suis l'ex-futur président des États-Unis.
Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats. On a évoqué celui de l'énergie, et il est légitime qu'il puisse y avoir sur ces questions-là de grands débats citoyens.
C'est la plus grande catastrophe de toute notre histoire.
Early this morning, au petit matin, l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans.
Nicolas Hulot en premier invité de l'année, tout un symbole. François Hollande en a fait la cheville ouvrière de la future conférence sur le climat.
Devons-nous nous préparer à une autre menace que la menace terroriste ?
Delphine Bateau et l'écologie sont des victimes de la rigueur. Alors dans une période de crise économique intense, avec 3 millions de chômeurs, des déficits à réduire, une commission européenne qui nous surveille, eh bien il faut savoir trancher. Et François Hollande, que l'on soupçonne toujours de tergiverser, d'être le roi de la synthèse, eh bien là, il a fait ses choix et ses joies, c'est pas l'écologie. Puis vous savez David, François Hollande a toujours eu un peu de mal avec la culture écolo, il n'a jamais vraiment considéré que c'était une priorité prioritaire, surtout face à l'emploi.
De faire en sorte que l'on ne puisse plus construire des logements d'habitation près des autoroutes, ce qui pose un problème vraiment d'existence quotidienne, de tension nerveuse insupportable pour les habitants.
Moi, on me demande à partir de quand je suis devenu écologiste. On ne me demande pas si je suis optimiste ou pessimiste. Non, on me demande à partir de quand j'ai eu cette prise de conscience. À partir du moment où je suis arrivé aux responsabilités du pays. Parce qu'à un moment, il faut aussi laisser sa trace.
Nous n'avons pas actuellement dans notre urbanisme, nous ne donnons pas une place suffisante à l'arbre.
C'est notre survie qui est en jeu.
La voix de Valéry Giscard d'Estaing avec la journée de l'arbre, quelle idée. Nicolas Sarkozy, n'opposons pas l'écologie à l'agriculture, les voix d'Al Gore, François Hollande qui s'engageait à engager des débats, Nicolas Hulot, et puis évocation de l'ouragan Katrina et ses 1836 victimes, ses 108 milliards de dégâts, c'était le 29 août 2005. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, Pierre Rabhi, pour vous, dans les dirigeants actuels de la planète, des personnes qui vous donnent un peu de l'espoir?
Qui donne de l'espoir. D'abord, on a traité de l'écologie. L'écologie, ça concerne absolument tout le monde. Le président de la République, comme le dernier balayeur, j'ai pas de mépris contre le balayeur, bien entendu. C'est une question fondamentalement liée à la continuité de la vie ou à son interruption. Donc, ne réduisons pas. Donc, ça ne devrait pas y avoir. Il y a un parti politique par défaut. Mais l'écologie devrait être enseignée dès tout petit à l'enfant pour lui faire comprendre qu'il est, lui, la nature. Et que la nature, il n'y a pas la nature et moi. Il y a quelques jours, une femme est venue faire une enquête sur l'eau. Je lui ai dit, madame, vous êtes de l'eau et je suis de l'eau. Je suis composé de 75 ou je ne sais plus combien de pourcents de flotte. Donc c'est de la flotte qui vous parle en ce moment. Et donc ce clivage qu'on a fait, nature et nous, est désastreux. Nous sommes la nature. D'ailleurs, beaucoup de... des gens prenaient, nous allons dominer la nature. Mais c'est stupide. Et ce monsieur qui proclamait qu'il allait dominer la nature, eh ben, il y a quelques virus qui lui ont réglé son compte et il s'est retrouvé au cimetière. Donc arrêtons avec ce clivage nature et nous. La nature est absolument essentielle à la continuité de notre histoire. Sinon, vu ce qui va se passer, c'est effectivement l'élimination de l'espèce humaine par elle-même. Nous sommes après tout peu de choses. Faut pas non plus. C'est-à-dire que c'est la peur en fait. Nous avons profondément conscience de notre limite et de notre mort. Ça provoque évidemment une panique terrible et on cherche la sécurité. Alors, est-ce que je vais mourir et renaître? J'en sais rien. Est-ce que je vais me réincarner? Je n'en sais rien. Moi, j'avoue, il y a peut-être des gens qui le savent, mais moi, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la nature, c'est moi. Et et je suis la nature. Et à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir ce clivage. Alors on parlait d'un monsieur, je sais pas qui, parlait de l'agriculture et l'écologie.
Nicolas Sarkozy.
L'opposition, etc. Mais enfin bon, c'est très facile comme formule. Mais dans la réalité, si nous malmenons la terre, c'est-à-dire que les substances que vous mettez dans la terre, vous les retrouvez obligatoirement dans votre organisme à travers le végétal que vous allez consommer.
Pierre Habib est aujourd'hui l'invité de Point Oui Point Son. On écoute le chanteur tunisien Jawar avec Taïlil et on se retrouve juste après.
سمي يوم غريب البس ثوب اسمار غصنك راه وحدي واذا الليل احمر من عين طيور الليل يومك بين العوام اطول من عمري نهار الليل يبان نهار الليل يغيب نهار يزور الحال من شجرة وحبيب الليل مقام ضوء عجيب حيوت ودمار وغدوة تدير بالدم والسم والغم والقطرة فحلهم لي
Vous écoutez Pour un oui, pour un son.
Pierre Habib, comment expliquer alors que la situation de la planète est si préoccupante, elle ne l'a jamais autant été, que finalement les partis écologistes soient si peu soutenus par les électeurs ?
De mon point de vue, je pense que l'écologie, ça ne se résume pas simplement à des questions d'effet de serre ou de gaz ou de choses comme ça. L'écologie, pour moi, elle est source de jubilation et de joie.
Et ce n'est pas assez dit par les partis ?
Ce n'est pas assez dit, à mon avis. C'est-à-dire que moi, je n'entends pas un discours qui nous interpelle au niveau de notre sensibilité profonde. Voilà. Et je pense que l'écologie ne peut pas être conformée à un système rationnel, dans le sens où c'est la vie avec ses fantaisies, avec sa beauté, avec son mystère. Voilà. C'est pour ça que souvent j'évoque un peu le fait qu'une fois j'avais eu un ami qui était venu m'aider à couper des arbres à la maison, et au coucher de soleil, je vois le coucher de soleil absolument magnifique, extraordinaire, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et sur ce panorama un arbre dénudé, parce que c'était l'hiver, qui appliquait en quelque sorte cette sorte de beauté extraordinaire sur ce grand paysage, et j'étais en extase. Et mon ami finalement à un certain moment se rapproche de moi et je lui dis: regarde. Et il me dit: il y a au moins 10 terres. Oui. Donc c'est
tout dépend du regard.
Donc on est voilà. Et le regard aujourd'hui, malheureusement, la beauté était de plus en plus évacuée du monde actuel. Il y a de plus en plus de laideur, il faut reconnaître. Les maisons n'ont pas d'âme. Quand je vois, moi, je vis dans une région où il y avait des maisons traditionnelles. Elles avaient, je sais pas, il y avait quelque chose de, il y avait de l'esprit dedans. Il y a quelque chose. Et maintenant, on a l'impression qu'on fabrique des caisses à vivre et non pas des vraies maisons. Et tout ça relève du fait l'écologie a besoin maintenant d'être perçue comme vraiment la merveille et le chef-d'œuvre de la vie et qui doit nous faire vibrer comme nous vibrons devant un chef-d'œuvre et non pas simplement dans les considérations de type rationnel.
Et peut-être que les partis écologistes ont plus un discours de peur que de rêve, c'est ce que vous dites aussi, plutôt que énoncer tous les problèmes, proposer des solutions et expliquer en quoi cela pourrait être beau et bon.
Oui, moi je pense que cela relève aussi de la façon dont on éduque les enfants aussi, parce que puisque l'enfant c'est la mise en route d'une destinée et c'est le moment en quelque sorte d'ensemencer l'enfant de ce qui va le constituer, de ce qui va lui donner en quelque sorte sa personnalité, sa perception pour le restant de ses jours. Or, l'éducation, c'est compétitivité, c'est soit le meilleur, le plus grand, le plus, et du coup, on pourrait fonder l'éducation sur la coopération, par exemple,
Votre fils, Sophie, d'ailleurs, a monté une école, voilà, un peu dans l'esprit de l'école Montessori.
C'est-à-dire, apprenons à l'enfant à être généreux, apprenons aux enfants à s'entraider et non pas à se concurrencer. Comme il y a aussi toute la problématique des femmes sur la planète qui sont reléguées et subordonnées à un masculin qui en fait les opprime.
Sur votre chemin, Pierre Rabhi, vous avez été accompagné par certains compagnons de route connus du grand public. En voici quelques-uns.
Quoi que l'on fasse dans un certain état d'esprit, cet état d'esprit se diffuse.
Préserver la vie, protéger la terre, c'est ce que tu partages. Et moi, ça me fait du bien de te lire.
Bonjour, je suis Mathieu Ricard, moine bouddhiste. Personnellement, j'ai fait depuis longtemps le choix de ne pas m'alimenter et de vivre au prix de la souffrance et de la mort d'autres êtres sensibles, donc les animaux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plus particulièrement du garage destiné à la production de foie gras. Cela se fait au prix d'immenses souffrances. Tout d'abord à la naissance.
Mettons que vous soyez, vous, élu président de la République.
Je créerais un observatoire des inégalités qui donnerait des recommandations pour réduire les inégalités, abaissant les trop hauts et relevant celles du bas. J'inciterais à créer des maisons de la solidarité dans toutes les villes et je créerais un service civique de solidarité des jeunes. Je prendrais des mesures pour favoriser l'agriculture biologique et l'agriculture fermière. Je développerais l'économie sociale et solidaire. Et je ferai régresser lentement, mais sûrement, le domaine du profit.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da-pa-pa-pa-da.
Toute la difficulté, c'est d'arriver à ce que l'économie ne devienne pas une espèce de superstructure qui fait que plus personne ne contrôle plus rien et que c'est l'économie qui nous contrôle. Et là, il y a un véritable problème actuellement. C'est qu'on est dans une société où l'économie a pris tellement de place parce que les échanges entre les humains se sont libéralisés et sont devenus très complexes à l'échelle planétaire. Du coup, l'économie devient en soi quelque chose de très important. Il faut qu'on arrive, et c'est pour moi un des principaux enjeux du XXIe siècle avec celui de l'écologie, c'est d'arriver à ce qu'on ait une maîtrise humaine de l'économie. Et de dire là, non, on ne laisse pas faire ça parce que ça détruit l'humain. Parce que ça détruit la planète.
Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Les mots seront forcément réducteurs pour évoquer Pierre Rabhi. Je dirais d'abord
d'un point de vue personnel, c'est une de mes plus belles rencontres. Fait partie des gens qui m'aident à me structurer et à être un petit peu plus cohérent.
Je me souviens, la première rencontre, j'étais très émue, parce que pour moi, c'était vraiment rencontrer une de mes idoles.
C'est un philosophe, c'est un homme profondément humaniste. Et ce sont ces hommes que le hasard de l'existence vous fait rencontrer et qui vous empêchent, parce que ça serait une totale erreur, de désespérer de l'humanité.
Que de compliments, n'en jetez plus. Quoique les compliments sont recyclables, donc là, vous avez reconnu, forcément.
Oui, j'ai des reconnu amis, les différents. Ce sont des amis de conscience, hein, c'est pas des amis simplement. Je veux dire qu'aujourd'hui, un individu, moi, il est plus identifié par sa conscience que par son histoire. Et cet échantillonnage que vous avez fait, ce sont surtout des amis de conscience. Alors il y a eu le violoniste Menuhin qui a été vraiment un très très grand ami, et parce qu'il associait à la fois ce talent extraordinaire, incontestable d'un grand grand musicien universel, et en même temps cette interrogation permanente sur l'homme, sur la nature. C'est un écologiste profond, un humaniste profond. Et nous sommes beaucoup beaucoup rapprochés. Il venait chez moi, on discutait, enfin, etc.
On a entendu Marion Cotillard, votre
oui,
femme.
Oui, bien sûr, moi je l'aime beaucoup aussi.
Edgar Morin, Frédéric Lenoir, Mathieu Ricard, Nicolas Hulot,
bien sûr.
Zaz aussi.
Oui, je suis très honoré par toutes ces amitiés qui m'encouragent en fait, avec lesquelles je suis en belle communion et qui m'encouragent aussi. Voilà, c'est un don magnifique de la vie.
Est-ce que parfois, je ne parle pas d'eux, vous n'avez pas la crainte d'être récupéré?
Si vous voulez, si on est récupéré, c'est qu'on est récupérable. Et je ne le suis pas. Voilà. Si on n'est pas récupérable, on ne peut pas être récupéré. C'est-à-dire qu'il faut être clair avec soi-même, ne pas se donner tellement d'importance qu'on en croit qu'on est très important. Voilà, moi je dis souvent, Pierre Rabhi, c'est 52 kilos tout mouillé. Et donc, par conséquent, voilà. Mais par contre, ce sur quoi je ne transige pas, moi, ce qui me donne ma vraie, disons, raison d'être sur cette planète, c'est les valeurs que j'essaye de transmettre. Je vérifie que ces valeurs ne sont pas négatives, qu'elles ne causent aucun préjudice, mais qu'elles sont au contraire dans le sens de la vie. Comment aider, protéger la vie? Ça a été dit par l'un de mes amis. Et puis voilà, après je retourne à Bibi Fricotin.
Edgar Morin, dans le documentaire Au nom de la Terre qui vous est consacré, parle de l'utopie en ces mots. L'utopie, ce sont des possibilités. Il faut faire la critique du réalisme. Le réalisme, c'est croire que tout est figé, que l'ordre social, les spéculateurs vont toujours dominer. Le réalisme de Vichy s'est effondré. Les utopiques de l'époque avaient de l'espoir. Et vous avez aussi à un moment une très belle définition de l'utopie. Vous dites, c'est l'intelligence de la transgression.
Oui.
Est-ce qu'on est assez utopique aujourd'hui?
On est
assez utopique tous collectivement
non,
aujourd'hui.
Non, pas assez. C'est-à-dire que les utopies vont dans. C'est-à-dire qu'il y a une pétrification de la conscience collective dans un modèle de société qui est tellement verrouillé que dès que on cherche à percevoir les choses différemment, on est considéré comme marginal ou comme n'étant pas dans la logique, et la logique est c'est terrifiant comme cette logique est pétrifiante, et elle enquiste dans les esprits des erreurs qu'elle transforme en certitudes, elle produit. Donc c'est terrible.
Et vous l'êtes marginal sur beaucoup de sujets. Un jour vous avez dit, ça m'a beaucoup amusé, je vous rejoins vraiment sur ce discours singulier sur la publicité. On pourrait se contenter de livrer des informations brutes à propos de tel ou tel frigo, son prix, ses performances, mais toutes les simagrées qui entourent le message s'adressent au subliminal. À quoi sert la femme en moitié nue qui va jouer sur votre libido pour vous amener à acheter? Tout cela devrait être illégal car ces procédés relèvent de la manipulation mentale reprochée aux sectes. J'aimerais bien parfois qu'on ne me prenne pas pour un abruti.
Oui, j'espère.
Oui, compliqué de changer le monde, mais peut-être qu'éveiller les consciences permet à beaucoup du coup de voir ce monde autrement. C'est peut-être.
Vous savez, le monde est très complexe, mais on a quand même son petit royaume. Moi, il est tout petit, il a pas de prétention, mais c'est mon royaume et je le gouverne selon mes valeurs à moi. Voilà. Et je veille à ce que je ne nuis à personne, que je suis dans le sens de la vie. Mais chacun de nous peut absolument avoir son petit royaume dans un monde complexe dans lequel on est dilué et finalement on risque d'aller vers le désespoir.
Voici une chanson qui devrait vous plaire, Pierre Rabhi. Voici L'avenir des oiseaux, c'est Thierry Romanens.
Nous aurons arraché assez de feuilles coupées, assez de branches abattues, assez d'arbres, que deviendront les oiseaux? Quand nous aurons arraché assez de feuilles coupées, assez de branches abattues, assez d'arbres, que deviendront les oiseaux? Innombrables dans le ciel nu, y aura-t-il assez de place pour eux dans nos maisons en cage? Dans nos maisons en cage, dans nos maisons en cage. Tu peux loucher vers les sources, te vautrer dans l'humus qui déroule l'infini des dépouilles. Tu peux te hisser jusqu'au toit du vendredi au dimanche. C'est à la bouse que tu retournes à ce gâteau de paille qui te vit naître. Cet effluve qui te vit naître. Ce gâteau de paille qui te vit naître. Cet effluve qui te vit naître. Vous me voyez comme en détresse avec mes valises lacérées, mes cordages défaits, mes phoques rapiécés. Vous me voyez avec vos yeux de tâche. Avec vos yeux d'otage, vous me voyez comme en détresse avec mes valises lacérées, mes cordages défaits, mes phoques rapiécés. Vous me voyez avec vos yeux d'otage, avec vos yeux d'otage. Alors que je reprends mon souffle dans l'éclaircie des pages blanches pour secourir vos épaves, pour secourir vos épaves. Alors que je reprends mon souffle dans l'éclaircie des pages blanches pour secourir vos épaves. Pour secourir vos épaves. Et sois laboureur ou dresseur de chiens ou redresseur de tort. Mais fais ta vie au fil du rasoir, au fil du rasoir. Non pas dans le filigrane soyeux de tes pères. Vis ta vie comme si elle était encore à naître grâce à toi. Encore à naître grâce à toi. Quand nous aurons arraché assez de feuilles coupées, assez de branches abattues, assez d'arbres, que deviendront les oiseaux? Quand nous aurons arraché assez de feuilles coupées, assez de branches abattues, assez d'arbres, que deviendront les oiseaux? Innombrables dans le ciel nu, y aura-t-il assez de place pour eux dans nos maisons en cage? Dans nos maisons en cage, dans nos maisons en cage.
Veille à ce que je ne nuis à personne, que je suis dans le sens de la vie, mais chacun de nous peut absolument avoir son petit royaume dans un monde complexe dans lequel on est dilué et finalement on risque d'aller vers le désespoir.
Pour un son. Pierre Rabhi, sur la croissance, vous dites que le résultat est que le superflu des uns s'impose aux dépens de l'indispensable des autres, la décroissance et la lucidité.
Oui, parce que ne serait qu'au départ, hein, totalement basique. Nous sommes sur une planète limitée. On aurait d'autres planètes, on dirait, bon, une fois qu'on a épuisé celle-là, on va ailleurs. Sauf qu'elle est limitée. Étant limitée, il y a évidemment les composés de ressources qui se renouvellent. Heureusement, l'agriculture, la vie se renouvelle, et de ressources qui ne se renouvellent pas. Appliquer à cette merveilleuse, au lieu de percevoir cette planète comme une merveilleuse oasis dans laquelle il ferait bon vivre, eh bien, on l'aperçoit comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser. Donc de ce fait, cette logique de l'épuisement, alors on parle de croissance par exemple, mais vous savez, on fait de la croissance avec n'importe quoi. On fait de la croissance en épuisant les mers, on fait de la croissance en détruisant la forêt, on fait de la... Si c'est l'obsession de faire de la croissance à tout prix, évidemment, elle incite à faire du profit à tout prix. Voilà.
Donc ce qu'il faudrait, c'est trouver la juste stabilité. Ne pas avoir non plus une décroissance aussi anarchiste que la croissance est sans limite.
Je pense qu'aujourd'hui, les pays dits prospères, j'en ai peut-être déjà parlé peut-être, sont dans la surabondance, bien que même dans cette surabondance, il y a aussi de l'indigence, et même plus cruel finalement. Il est plus cruel d'être dans l'indigence au milieu de l'abondance que d'être dans l'indigence quand on est dans un pays où il y a, où elle est à peu près généralisée, si vous voulez. Donc nous sommes dans une situation dans laquelle il y a de la surabondance, mais forte consommation d'anxiolytiques, etc. Donc ce qui veut dire qu'il y a une abondance extérieure matérielle, mais il y a une indigence intérieure. Les gens ne sont pas heureux, ne racontent pas d'histoire. Et c'est pour ça, on essaye de les distraire, on essaye d'avoir, alors qu'en fait, on sent très bien qu'il y a un mal-être profond. Et je pense que la réussite d'une société, c'est justement quand elle offre aux individus, aux êtres humains, le bonheur d'exister. On est loin du compte.
Pour un oui,
RTS Info.
Vous avez dit l'avenir sera la convivialité universelle ou ne sera pas.
Et oui, parce que si vous voulez, aujourd'hui, on peut observer très objectivement que le chômage augmente, que finalement ce chômage qui augmente va créer de l'exclusion, que les États ont mis en place des palliatifs pour venir de secourisme social, mais est-ce que ce secourisme social, on pourra le tenir longtemps? Je n'y crois pas. Donc ça veut dire que l'avenir est à la reconstitution, et c'est un peu ce qu'on a fait, ce que j'avais proposé, les oasis en tout lieu. Il se trouve que ma propre fille a créé le premier oasis, qui est le hameau du Buis. Et c'est quoi? C'est une vingtaine d'habitats avec une école, un collège. Les gens se sont rassemblés, non pas la communauté 68arde, hein, c'est pas du tout ce registre-là, mais les gens se sont rapprochés pour recréer ensemble une solidarité. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a une richesse extraordinaire, parce que chacun vient avec son talent, ses capacités, qu'il met au service des autres. Et ce qui fait qu'il y a une solidarité qui se crée, et je crois pas que l'avenir sera autre chose qu'à cela. Si l'avenir est fondé sur le chacun pour soi, ben, il y aura que des misères. Par contre, si on dit, le paradigme a fini, enfin, cette logique-là s'achève, mais nous avons des capacités encore magnifiques, on a des savoirs, on a un savoir-faire. Ces choses-là, on les négociait contre un salaire, et bien maintenant, on va les mutualiser. Et en mutualisant le tout, on va arriver à créer une communauté qui va survivre. Voilà, c'était on parlait d'utopie, c'est celle-là mon utopie, c'était il faut reconstituer des oasis partout.
Suite à votre passage sur cette terre que vous aimez tant, qu'aimeriez-vous laisser?
À vrai dire, je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui me disent que j'ai déjà, à travers ma petite existence, produit des choses dont les gens bénéficient. Et moi, je pars des constats simplement. Je donne des conférences, j'écris des livres, j'essaye de communiquer. Ce que les gens reconnaissent, c'est que Pierre Rabhi dit ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est pas des théories générales, bien sûr, je peux être dans la poésie, hein, mais quand on est dans le plan du réalisme, c'est vrai qu'on propose des choses très concrètes. L'agroécologie, c'est une proposition extrêmement, extrêmement concrète. Voilà, et puis, beaucoup de gens, maintenant je remplis les salles, etc. Mais c'est pas pour jouer les vedettes, c'est simplement parce que les valeurs qui m'animent, depuis des années, depuis très très longtemps, sont des valeurs maintenant qui sont reconnues. Et les témoignages que j'ai c'est vous nous faites du bien, vous nous aidez, etc. Ben, tant mieux, je veux dire, c'est tout. Et je demande pas à ce qu'on me donne une médaille ou quoi que ce soit par rapport à ça. Simplement, voilà, j'ai vécu le mieux que j'ai pu en respectant la vie et puis transmettre ça aux générations futures. Et je peux vous assurer qu'il y a énormément de jeunes qui sont aujourd'hui dans une forme d'impasse. Et quand et j'en rencontre beaucoup, ils me disent mais c'est fou, vous nous aidez, mais vous nous donnez voilà, vous nous donnez de l'espoir, vous nous donnez. Il y a un ami qui a écrit un ouvrage, s'appelle Pierre Rabhi, Semeur d'espoir. Moi, j'avais plutôt l'impression que je semais le bourdon partout avec mes propos. Et voilà, qui me dit, mais non, pas du tout, vous semez de l'espoir. Donc voilà, j'ai accompli humblement, je continuerai tant que Dieu me prête vie à aller dans cette voie-là, parce que c'est une voie de l'amour.
Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, Pierre Rabhi.
Merci à vous.
Et j'incite les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur vous à découvrir le livre Pierre Rabhi dont vous parliez à l'instant, Semeur d'espoir, entretien avec Olivier Lenaire, paru chez Domaine du Possible, et puis le documentaire qui vous est consacré Au nom de la Terre de Marie-Dominique Delsing.
Pour un oui, pour un son, avec Le Matin Dimanche et ses magazines.
C'était Pour un oui, pour un son, à la réalisation et montage sonore Alexandre Lemierre, programmation musicale François Piton. Delphine Houdemont a filmé les coulisses de l'émission à découvrir sur le site de la radio rts.ch, sur la page de notre émission Pour un oui, pour un son. Sachez que nous sommes aussi présents sur Facebook, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Très bon week-end à l'écoute des programmes de la première et on se retrouve dimanche prochain à partir de 11h avec un nouvel invité.
L'heure avec le Tour de Romandie et le Gruyère AOP.
Il est midi sur la première.